Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Kader Chiban, conseiller régional d'Île-de-France, membre du pôle écologiste au conseil régional, conseiller municipal de Saint-Denis. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Kader Chiban, il y a une mauvaise nouvelle pour les franciliens en cette fin d'année. Le pass Navigo, qui était de 75 euros par mois, va passer à 84 euros. Comment expliquer cette hausse au moment où les Français sont confrontés à une inflation record ?
Bon, déjà, elle est inacceptable et insupportable vu la situation économique et l'inflation galopante que vivent nos concitoyens en Île-de-France, mais partout en France. Il faut qu'on fasse preuve de solidarité et les transports en commun n'auraient pas dû augmenter. Alors, ce qui se passe, c'est que les transports en commun subissent bien évidemment la hausse des énergies, mais ça, vous le savez, c'est un peu partout pareil, des difficultés financières récurrentes qui est en lié à la gestion de Valérie Pécresse, parce qu'elle est aux responsabilités depuis 2015. Là, il y avait une possibilité, il manquait à peu près 300 millions d'euros, il y avait une possibilité d'augmenter le versement mobilité. Et des sénateurs, des députés, plutôt de gauche, plutôt écologistes, ont essayé. Et du coup, nous pensions que c'était aux entreprises de payer le manque à gagner et non aux usagers et usagères qui souffrent, comme je l'ai dit tout à l'heure, des augmentations alimentaires, de l'énergie. Franchement, c'est très injuste, très très injuste pour eux. Et en plus, le service n'est pas au rendez-vous. Le service n'est pas au rendez-vous. Ça veut dire que jusqu'à présent, nous ne sommes jamais revenus aux 100% de l'offre qu'il y avait avant le Covid. Je ne sais pas si vous prenez les transports en commun. Moi, je les prends. Je prends le RER B tous les jours. C'est des rames bondées, des trains annulés, des trains qui s'arrêtent à 22h, des trains qui ne fonctionnent pas le week-end. Non, on est dans une situation insupportable. C'est le démantèlement du service public, des transports, de la part de Valérie Pécresse.
Alors justement, vous évoquez la situation très tendue dans les transports en commun. IDF Mobilité, l'organisme qui gère les transports dans la région, a voté pour la reprise du trafic à 100% de ses capacités. Est-ce qu'une telle décision va permettre aux usagers d'avoir enfin des bus et des métros en nombre suffisant ?
Alors, première chose, c'est une bonne nouvelle. Sous la pression d'un certain nombre d'élus de gauche et écologistes, parce qu'on le demande depuis un an, mais depuis un an, Valérie Pécresse fait la sourde oreille. Le souci qu'on a, en particulier pour les bus, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on reviendra à 100% de l'offre, parce qu'il n'y a pas assez de chauffeurs de bus, tout simplement. C'est une profession qu'on a précarisée. Et encore une fois, c'est Valérie Pécresse qui en est responsable, avec l'ouverture à la concurrence et donc une forme de privatisation de ce service. Et aujourd'hui, ce métier n'est pas très attrayant, alors qu'il est difficile. Il est difficile, il y a des chauffeurs de bus qui travaillent tard le soir, qui sont seuls, et malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas assez de main-d'œuvre. Il y a un manque de main-d'œuvre dans ce secteur, comme dans d'autres.
Pourquoi êtes-vous opposé à la privatisation des transports en Île-de-France ? Est-ce que ça ne pourrait pas être une solution, justement, pour recruter des chauffeurs de bus ?
Non, parce que, inévitablement, la privatisation, c'est quoi ? Le privé, c'est quoi ? C'est toujours gagner plus d'argent. Et pour gagner plus d'argent, on va aller sur les lignes les plus rentables. Et on va, dans des cités HLM, dans le périurbain, loin de Paris, supprimer des lignes, ou en tout cas réduire la cadence des bus. Et nous pensons que le service public assure l'égalité territoriale à l'ensemble des populations, et peu importe où ils habitent, et peu importe leur couleur de peau, et peu importe leur âge, c'est ça le service public. Et les transports, comme dans d'autres domaines, doit rester du service public et de la régie publique. Ça nous paraît essentiel pour assurer l'égalité entre les citoyens.
Avec cette hausse du pass Navigo, vous avez le sentiment que de nombreux franciliens vont renoncer à prendre les transports en commun. Peut-être certains vont frauder, faute de, d'autres possibilités.
On ouvre la porte à plusieurs risques. Un, comme vous le dites, certains ne pourront pas financièrement, donc ils risquent de frauder. Là, on rentre dans un engrenage qui n'est bon pour personne, qui n'est bon pour personne. Même si nous, et je reviendrai après, on est plutôt pour une tarification sociale. Tout le monde ne devrait pas payer la même chose dans un service public. On paye selon ses moyens, mais peut-être que j'y reviendrai ensuite. Ça, c'est le premier aspect dans les transports. Et puis, il y a le risque qu'un certain nombre de personnes reprennent leur voiture. Se disent, après tout, j'ai une voiture à la maison, je vais reprendre ma voiture. Et là, vous savez bien que en particulier à Paris, dans la première couronne, on est dans des zones saturées, polluées, où justement il faut tout faire, non pas pour faire de l'écologie punitive comme on le dit souvent, c'est pas ça l'écologie punitive, non non, ce qui punit les gens c'est la pollution, c'est l'explosion des maladies chroniques, c'est l'explosion des cancers. En Ile-de-France, non, il faut inciter les gens à prendre des transports, mais des transports de qualité, avec des fréquences importantes. Et c'est bon pour tout le monde, le transport en commun. C'est bon pour l'économie française, c'est bon pour l'écologie et c'est bon pour le portefeuille, normalement, des franciliens.
Kader Chiban, vous avez évoqué la tarification sociale qui pourrait être mise en œuvre en Ile-de-France. À qui pensez-vous en particulier ?
Je pense à des personnes qui ont des revenus peu important, au SMIC, en dessous du SMIC, je pense à des familles qui ont plusieurs enfants, je pense à des familles monoparentales, voilà, on pourrait comme ça regarder ceux qui sont en plus grande difficulté, parce que tout le monde ne vit pas la crise de la même manière, tout le monde ne vit pas la crise, tout le monde n'a pas les mêmes moyens pour être confronté à cette crise, et donc il y a une certaine population par rapport à des revenus, à une composition familiale, on pourrait imaginer des tarifs qui leur soient plus accessibles et qui leur permettent justement de prendre ce pass Navigo sans se sacrifier, sans choisir entre prendre le pass Navigo ou remplir le frigo à la fin du mois.
Kader Chiban, la gauche et notamment le pôle écologiste a critiqué le budget de la région Île-de-France. Valérie Pécresse dit que ce budget va permettre d'accélérer la transition écologique. Elle dit aussi qu'il y a des mesures pour relancer l'économie. Qu'est-ce qui ne va pas pour vous dans ce budget ?
Rien ne va. Rien ne va dans ce budget. Vous savez, la région aujourd'hui, elle doit protéger les franciliens et les franciliennes, à la fois socialement, et pour préparer la transition écologique. De ce point de vue-là, ce n'est pas grand-chose. Je vais vous donner quelques exemples. Les responsabilités, la compétence de la région, c'est avant tout les transports, les lycées et la formation professionnelle. C'est les trois budgets les plus importants de la région Île-de-France. Sur ces trois dossiers, elle est en train de démanteler les services publics. Les transports, on vient d'en parler. C'est un budget, on a à peu près 5 milliards d'euros. La région, c'est 2 milliards au transport. On vient de parler de la situation catastrophique et chaotique. Les gens le savent bien, ils prennent les trains tous les jours ou les bus, c'est chaotique, catastrophique, c'est de la responsabilité de Valérie Pécresse. Elle ferme des lycées parisiens actuellement, les lycées professionnels. Elle va fermer des lycées. Elle réduit la dotation aux lycées. C'est la jeunesse. Donc, c'est la responsabilité de Valérie Pécresse sur les lycées. Et puis, troisième domaine, la formation professionnelle. Elle est en train de tout casser. Il y a ce qu'on appelle les espaces dynamiques d'insertion pour des jeunes en grande difficulté. Elle les arrête, là, au 31 décembre. Les gens sont venus manifester récemment. Et maintenant, elle s'attaque aux missions locales qui permet d'orienter, de former des jeunes sortis du système scolaire et qui n'ont pas les atouts, les bagages pour aller sur le marché de l'emploi. Donc, vous voyez, dans ces trois domaines. Et j'en ajouterai un quatrième. On a voté récemment une mutuelle régionale. Bonne idée sur l'esprit d'avoir une mutuelle régionale pour ceux qui n'ont pas de mutuelle avec un employeur, qui n'ont pas d'employeur. Mais aucun critère social. Donc ça va favoriser toujours les mêmes, toujours ceux qui ont plus d'argent. Et c'est la politique de Valérie Pécresse. Vous savez, Valérie Pécresse, elle a plus d'un milliard de côté. La région Île-de-France, en période de crise, n'est pas capable d'aller piocher sur les 1 milliard 200 millions qui sont mis de côté. Oui, qui sont mis de côté, et c'est l'argent des franciliens et des franciliennes.
Alors, vous nous dites que Valérie Pécresse a une cagnotte aussi importante, mais elle a souligné que la région Île-de-France est la plus pauvre de France en recettes, 316 euros par habitant contre 492 dans les autres régions. Est-ce que la région manque de ressources financières ?
Bon, on peut toujours se plaindre, on pourrait vouloir toujours plus. C'est vrai qu'il y a un problème de financement de la région, mais quand même, la région la plus riche, la région Île-de-France qui est la plus riche, reste la région Île-de-France, en tout cas la collectivité, reste la plus riche de France. Il n'est pas vrai de dire qu'elle n'a pas les moyens de sa politique. Non, elle fait des choix politiques. Elle fait des choix politiques qui ne sont pas les bons. Par exemple, vous savez qu'elle a acheté le siège de où nous sommes à Saint-Ouen. Et tout de suite derrière, c'est ce qu'elle a fait. Elle l'a vendu à une banque pour le louer. Est-ce que c'est gérer ça en bon père de famille ? Quand on achète une maison, un immeuble, un appartement, on le garde pour investir et c'est un bien. Là, elle a revendu à une banque. Les Franciliens et les Franciliennes n'y trouvent pas leur compte. Non, je crois qu'elle gère mal cette région surtout.
Oui. Les Français sont maintenant informés qu'ils pourront subir des coupures électriques si nous venions à manquer d'électricité. Deux réacteurs nucléaires supplémentaires ont été remis en service, ce qui porte à 40 le nombre de réacteurs sur 56 qui fonctionnent normalement. Quel regard portez-vous sur le plan du gouvernement en cas de pénurie électrique? Vous qui êtes un écologiste, finalement, on est très dépendant de l'énergie nucléaire.
Ben, on est très dépendant parce qu'on ne nous a pas assez écoutés. Si vous voulez, là, on est toujours en train d'agir dans l'urgence. La crise énergétique qui s'est accélérée avec la guerre en Ukraine, mais nous, on alerte les écologistes depuis 20-30 ans, puis on nous regarde de travers. On a toujours dit qu'il fallait passer à la transition écologique. Nous n'avons pas assez d'énergie renouvelable. Le nucléaire, c'est dangereux le nucléaire. Et qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Il a choisi ni les énergies renouvelables, ni le nucléaire. Il a fait de l'hybride. Et là, il se retrouve dans une situation catastrophique parce que le nucléaire, ça coûte très très cher. Pourquoi ces centrales nucléaires sont à l'arrêt? C'est parce qu'elles coûtent plusieurs milliards. Et on aurait pu investir, et c'est aussi ça la transition écologique, dans les énergies renouvelables. Bon, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation. Il va falloir que nous fassions tous des efforts. Bon, s'il s'agit de petites coupures, on parle de petites coupures, en veillant bien à faire attention à un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas se priver d'électricité pour des raisons de santé, pour des raisons de sécurité, voilà. Mais si c'est des petites coupures d'électricité d'une à deux heures par jour, je crois qu'on est capable de surmonter ces petites coupures. Nous ne sommes pas en Ukraine, nous ne sommes pas en guerre. Il ne faut pas aussi dramatiser ce qui est en train de se passer. Mais pour autant, ça pose le débat de quelle énergie nous voulons, quelle indépendance énergétique nous voulons pour la France.
Alors, les clients d'EDF ont consommé en novembre 10% d'électricité de moins par rapport à novembre 2021. Les Français jouent donc le jeu de la sobriété énergétique. Que faudrait-il faire pour diminuer encore notre consommation d'énergie?
Déjà, vous prouvez que c'est possible. Et donc, on a bien affaire à des concitoyens qui ont une prise de conscience, qui sont conscients de ce qui se passe. C'est possible. Vous savez, moi, je vois encore l'éclairage public. Il y a encore des efforts à faire. Il y a des lumières dans certaines villes. Alors, ça dépend où. On me dit qu'il y a des lieux un peu en termes d'insécurité. Je peux le comprendre. Mais on pourrait très bien couper l'électricité, lumière à l'extérieur de minuit, 1h du matin à 5, 6h du matin. Les collectivités ont l'exemple à montrer. La puissance publique doit montrer l'exemple. Ça, c'est le premier exemple. Et puis après, il y a des gestes du quotidien. Vous savez tous. Tout le monde le sait aujourd'hui. Il faut faire attention à tout, à sa chasse d'eau, à ses douches. On ne peut plus prendre 3 douches par jour. Bon, tout le monde ne prend pas 3 douches par jour, mais l'été, il y en a qu'en prendre 2, les bains. On doit tous faire des efforts. Tous faire des efforts. Et c'est comme ça qu'on prend conscience que nous avons une planète, des ressources qui sont limitées et l'énergie aujourd'hui est précieuse. Et je trouve que dans ce débat, on ne parle pas assez de l'eau. L'eau est vitale. L'eau, vous savez, on n'en parle que quand il y a des inondations ou des sécheresses. Mais l'eau est en train de nous manquer et qu'il va falloir mener une véritable politique en la matière.
Que peut faire la région Île-de-France pour lutter contre les passoires thermiques, Kader Chibane?
Un plan, un grand plan de rénovation thermique. Et moi, sur cette question, je me bats beaucoup parce que c'est des questions que je suis particulièrement, parce que je suis à la commission logement-aménagement et j'interpelle constamment, j'allais dire tous les mois, régulièrement, le vice-président en charge de ces questions. Et donc, c'est très timoré ce que fait encore la région. Il n'y a pas un grand plan de rénovation thermique. Là, nous avons des capacités de réduire les énergies. C'est bon pour l'économie, parce que ça relance une filière dans le bâtiment. C'est bon pour le climat, puisque c'est moins de pollution. Et c'est bon pour le portefeuille. C'est bon pour le portefeuille, puisque les factures seront moins importantes. Et nous sommes pour les familles les plus modestes, qu'il y ait zéro reste à charge. C'est-à-dire que les familles les plus modestes n'aient pas à payer leur rénovation thermique. Parce qu'il y a souvent des participations financières, et c'est normal quand on a les moyens, mais quand on ne l'a pas. Et donc ça nécessite un grand plan pour plusieurs milliers de logements qui sont des passoires thermiques en Île-de-France. Il faut s'y attaquer. Mais comme la région a pris du retard depuis 2015, on court derrière, on est toujours en retard et on n'est pas au niveau.
Kader Chibane, le pôle écologiste a récemment organisé une réunion sur le thème de l'aménagement de l'Île-de-France. Pourquoi est-ce un sujet dont chacun devrait se préoccuper dès maintenant?
Déjà, nous sommes dans le cadre de la révision du schéma directeur de l'Île-de-France. Donc c'est un plan d'aménagement urbanistique qui indique sur l'Île-de-France, là on peut faire du logement, là on doit avoir des terres agricoles, C'est extrêmement important pour l'avenir de l'Île-de-France dans 2040. Quelle Île-de-France nous voulons en 2040? Alors, il y a deux projets radicalement différents. Il y a la droite, toujours plus d'attractivité, toujours plus de monde en Île-de-France. Et nous, nous pensons qu'au contraire, les écologistes ont un autre projet, qu'il faut arrêter de densifier l'Île-de-France. Il y a une trop grande densification. Il y a trop de monde. On se marche sur les pieds dans la première couronne. Et au contraire, il faudra avoir une coopération avec les autres régions qui se sont vidées de leur population pour que l'Île-de-France décroît d'une certaine manière. Nous sommes trop nombreux aujourd'hui en Île-de-France. Et nous grignotons sur les terres agricoles, nous construisons au bord des autoroutes. On marche sur la tête de ce point de vue, avec cette volonté toujours de toujours plus d'attractivité. Et ben on travaille à une moins bonne qualité de vie pour les habitants.
Là, finalement, vous êtes en train de nous parler d'une politique d'aménagement du territoire au niveau national. Là, il faudrait l'intervention de l'État.
L'État est là pour réguler. Je suis assez d'accord avec vous. Alors, moi, je suis pour la décentralisation. Mais l'État est là pour réguler. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on paye? On paye la métropolisation. Les métropoles, ça veut dire que Paris doit briller, la métropole de Paris. Et c'est la même chose dans des métropoles en province. On vide les villages, on vide les périphéries pour densifier les métropoles. On est en train de métropoliser la France et une grande partie du territoire en train de la vider de sa population. Et ça, c'est dangereux. Et c'est cette conception-là qu'il faut revoir. Alors, il y a une coopération entre les régions, mais l'État doit jouer son rôle de régulateur, vous avez raison.
Et donc ça, c'est une politique sur le long terme.
D'aménagement du territoire, vous avez raison, sur une génération, sur 20 ans, avec des choix qu'on doit faire. Finalement, quel est le problème? C'est l'emploi qui guide l'aménagement. Ça veut dire qu'on doit penser à des bassins de vie. Comment on peut travailler à 15, 20, 30 minutes de son emploi et pas se retrouver, comme c'est dans l'Île-de-France, à tous ceux qui habitent l'Est, se transportent à l'Ouest pendant une heure et le soir, ils rentrent à l'Est. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, ils partent de Seine-Saint-Denis pour caricaturer, parce que je suis de Seine-Saint-Denis. Ils vont dans les Hauts-de-Seine et le soir, ils rentrent dans les Hauts-de-Seine. Donc, ça sature les transports, ça sature les autoroutes. En termes de qualité de vie, quand on est 2 à 3 heures dans les transports, ça n'a pas de sens. Il faudrait imaginer, mais il faut le théoriser, il faut le remettre en pratique. Un emploi, un logement dans un rayon d'une demi-heure. Comment on fait pour que l'emploi soit plus proche des habitations? C'est ça l'avenir de l'Île-de-France et de la France de manière générale.
Et donc, ça n'est pas finalement la peine de construire trop de logements. Ce que vous dites, c'est qu'il faut réduire le nombre d'habitants. En Île-de-France, actuellement, nous sommes 12 millions.
Oui, non, on ne doit pas grossir en tout cas. L'Île-de-France ne doit pas grossir. Et puis, vous savez, il y a un certain nombre d'instituts qui disent qu'il y a 70-80% des logements existent sur l'Île-de-France. Alors, il y a des logements vacants, il y a des logements insalubres, il y a des bureaux avec la crise du bureau et puis ce qu'on connaît aujourd'hui avec le télétravail. On pourrait transformer des bureaux en logements. Il y a d'autres solutions imaginées. Ceux qui veulent construire des logements, 70 000 logements par an, qui met la pression? Ce sont des promoteurs immobiliers. Ils ont d'autres intérêts que ceux de la population. On nous fait croire que c'est toujours bien de construire pour construire. Produire, c'est pas construire. On peut produire du logement et nous sommes les écologistes pour que chacun ait un logement, mais dans un cadre de vie avec des espaces naturels, avec de l'emploi pas très loin de chez lui. Il faut penser la ville autrement et la ville, ce n'est pas automatiquement la métropole.
Merci Kader Chiban. Je rappelle que vous êtes conseiller régional d'Île-de-France, membre du pôle écologiste au conseil régional et conseiller municipal de Saint-Denis. Bonsoir.
Merci, c'était un vrai plaisir. Au revoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.